La Méditerranée, matrice de culture, de civilisation et de religion. La Méditerranée, un espace qui révèle une humanité en relation, mais un espace où se posent également de manière aiguë des questions de justice et d'inégalité, et où la pauvreté pousse à la migration, avec parfois la mort au bout de la traversée, dans des eaux bleues devenues cimetières. La Méditerranée, c'est aussi le défi de la rencontre et du dialogue. Ces thématiques, et bien d'autres, nous les avons abordées dans cette série d'entretiens avec Christian Salençon. Il est prêtre du diocèse de Nîmes, il enseigne à l'ISTR de Marseille et il est un spécialiste du dialogue islamo-chrétien. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment consacrés aux moines de Tibérine et au testament spirituel de leur prieur, Christian de Chergé. Nous arrivons à la fin de ces échanges et en toile de fond se pose la question de la fraternité qui, dans la foi chrétienne, tient une place centrale, puisque nous confessons que Dieu est Père, ce qui fait de nous des frères et des sœurs. Mais pourquoi cette belle notion de fraternité est-elle si difficile à vivre? C'est par ce point que nous commençons ce dernier échange avec Christian Salençon. Je m'appelle Véronique Alzieux et vous écoutez La Méditerranée, une géographie de la rencontre. Cinquième et dernier épisode, La Méditerranée, un laboratoire pour la fraternité.
Alors vous savez, la fraternité, il faudrait du temps pour en parler. Parce que ce qu'on appelle la fraternité, généralement, ce n'est pas la fraternité. Ce sont des heureux sentiments fraternels. Mais les heureux sentiments fraternels, ce n'est pas toujours ça dans la fraternité. Il y avait un Nîmois, l'oncle d'André Gide, qui s'appelait Charles Gide. Charles Gide disait « La fraternité, c'est fait pour les chrétiens et pour les imbéciles ». Ça fait beaucoup de monde. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce que c'est qu'il dénonce? Il dénonçait quelque chose, ça. Il dénonçait l'image idéalisée qu'on a de la fraternité. C'est compliqué, la fraternité. Sinon, ce n'est pas la fraternité. Et il n'y a rien qu'à regarder son expérience humaine de fraternité. Regardez des petits-enfants, des tout-petits-enfants, dans une famille. Ils sont deux, ils sont trois. Regardez le temps qui passe à se disputer. Ils ont de bonnes raisons de se disputer. Parce qu'il faut que chacun arrive à faire sa place. Et il faut que chacun soit assuré de sa place. Et tant qu'il n'est pas assuré de sa place, il va chercher à se mettre en valeur, il va combattre l'autre. La mort est rentrée dans le monde par la fraternité. Le premier crime, c'est Caïn et Abel. Et puis regardez les histoires de frères qui arrivent après. L'autre, il est vendu par ses frères. Il est mis dans une citerne et il est vendu par ses frères. Bon, l'autre, il capte l'héritage de son frère, Jacob et Ésaü. Les frères de Jésus, ils viennent l'arrêter. Ils trouvent qu'il est insupportable. Alors pourquoi c'est compliqué la fraternité? Il faut accepter déjà qu'entre frères, on se ressemble. Il y en a qui ne supportent pas la ressemblance. Nous parlerons toujours de la différence. Mais entre frères et sœurs, on se ressemble. Des fois même physiquement, par le ton de la voix, puis par des goûts communs parfois. Voilà, on se ressemble, il y a une ressemblance. Et il faut accepter la ressemblance. Parfois la ressemblance est intolérable. Parce qu'on veut tellement être unique qu'on ne supporte pas la ressemblance. Et ça, il y en a qui font ça en théologie. Ils veulent tellement que le christianisme soit unique qu'ils ne supportent pas l'unité, la ressemblance. Alors ça, c'est le premier combat de la fraternité. Le deuxième combat de la fraternité, c'est que une fois que vous reconnaissez la ressemblance, il vous faut accepter la différence. Pensez à la famille. Votre frère, il a été éduqué à peu près comme vous, il a eu les mêmes parents, mais il n'a pas les mêmes opinions politiques que vous, il ne se situe pas pareil par rapport à la croyance comme vous, il n'a pas la même manière d'éduquer ses enfants, il n'a pas la même manière de vivre, il n'aime pas les mêmes bagnoles que vous, etc., etc., etc. Voilà. Et alors, évidemment, il fait beaucoup moins bien que vous pour élever ses enfants, quoi. C'est quand même vous qui êtes la meilleure, vous n'avez pas de doute, ça.
C'est-à-dire qu'il y a à la fois une immense proximité et une forme d'étrangeté,
et une étrangeté
qui cohabite.
Et oui, et une différence. Et il faut tenir cette espèce de paradoxe de l'unité et de la différence. Et c'est ça la fraternité. C'est accepter que l'autre soit complètement comme moi et complètement différent de moi. C'est ça le paradoxe.
Accepter, c'est-à-dire?
C'est que je n'ai plus besoin de me comparer à l'autre pour être moi-même. Je suis suffisamment unique et je me considère comme suffisamment unique pour accepter qu'il me ressemble et qu'il soit différent de moi. Pour me retrouver suffisamment unique, le petit enfant, il faudra qu'il ait l'assurance que dans l'amour de ses parents, il est unique. qu'il n'est pas le second, le troisième, mais qu'il est unique. Et alors ça, évidemment, c'est symbolique au niveau transcendantal, c'est que je suis unique aux yeux de Dieu. Voilà. Donc le musulman, il ne me dérange pas, il ne m'enlève pas mon unicité, il ne me dérange pas. Le juif, il ne me dérange pas, ça ne me dérange pas. Voilà. Alors ça, je le dis de manière un peu théorique, là, mais voilà, c'est ça le chemin de la fraternité.
C'est un chemin.
Donc la fraternité est un chemin. Et en plus, c'est un chemin où vous n'en avez jamais fini. C'est-à-dire que quand vous avez commencé à accepter votre frère, votre sœur, cette espèce de petit nourrisson qui vient d'arriver, qui envahit le champ familial, après, on vous met à la crèche. Alors là, tout d'un coup, il y a de la 20 qu'il faut, bon. Puis après, on vous met à la maternelle, puis après, etc. Alors après, vous avez l'école, puis vous avez le club, puis vous avez l'église, puis vous avez tout ce que vous voulez. Et puis après, il faut accepter ceux qui sont d'une autre culture, puis il faut accepter encore ceux qui sont d'une autre religion. Et vous n'en avez fini, pas fini, parce que le but de la fraternité, c'est d'être universel, comme disait Charles de Foucault.
Alençon, on parle parfois de la Méditerranée comme d'un laboratoire à la fois humain, culturel, spirituel. J'ai moi-même employé ce terme dans un épisode précédent. C'est un mot qui vous paraît opportun, adéquat ?
Oui, c'est un mot qui me paraît opportun parce que bon, la Méditerranée, c'est pas le paradis. Hein. On a beaucoup de travail à faire. Hein. On a évoqué déjà par le passé les conflits présents, il y a des conflits douloureux qui sont en cours, etc. Bon. Mais c'est un laboratoire parce que c'est une terre de contraste. C'est une terre qui a été matricielle pour les civilisations, pour des civilisations. C'est une terre où sont nées les religions, où elles se sont développées. Le christianisme a trouvé là ses premières bases aussi pendant les premiers siècles, etc. Et donc le ventre de la Méditerranée est fécond. C'est un lieu de travail, c'est un lieu de recherche, c'est un lieu, mais ce n'est pas un lieu fermé sur lui-même. Hein. La Méditerranée a été ouverte par le passé et elle a su se diffuser et les religions se sont répandues dans les cultures, des autres cultures, etc. Donc elle a beaucoup apporté à l'humanité, mais elle n'est pas l'humanité, elle n'est qu'un petit espace formidable. Je l'aime beaucoup, je crois que la manière dont j'en parle, on entend que je l'aime beaucoup et que je suis un Méditerranéen. Jésus aussi était Méditerranéen.
Oui, j'étais en train d'y penser.
C'est le plus célèbre des Méditerranéens, d'ailleurs, Jésus. Je suis très fier que Jésus soit Méditerranéen. On ne le dit jamais, c'est dommage. Mais voilà, donc je pense effectivement que c'est un laboratoire, à condition qu'elle soit dans un rayonnement. Je pense aussi que c'est un laboratoire parce que ça pose un problème pour l'Europe. Je ne sais pas ce que va devenir l'Europe. À mes yeux, l'Europe s'est écroulée après les deux grandes guerres mondiales. Il a fallu la refonder. C'était les chrétiens qui l'ont refondée, d'ailleurs. Et c'est les grands chrétiens qui ont refondé l'Europe.
Robert Schuman, notamment,
Monet et compagnie, quoi, hein. Adenauer, tout ça. Et ces grands chrétiens, ils avaient raison. Ils avaient raison. Il fallait refonder un espace culturel. Le problème, c'est que je ne sais pas si l'Europe d'aujourd'hui est un espace culturel. Je ne sais pas si ça le sera. On est un peu dans une heure de vérité, hein, aujourd'hui, pour l'Europe. On l'a fondée de manière économique, on en a fait un grand marché. Mais on ne fait pas une civilisation avec un marché.
Voilà. Vous pensez qu'il peut y avoir une civilisation méditerranéenne ?
Il y a une civilisation méditerranéenne. Ah oui, la civilisation.
Ouais. Encore aujourd'hui ?
Oui, encore aujourd'hui.
Parce que l'Europe avait ceci de particulier, qu'elle avait une unité religieuse, notamment.
La diversité n'empêche pas l'unité, au contraire, elle participe à l'unité. Une unité sans diversité, c'est horrible. Alors, la Méditerranée, ce n'est pas tout à fait l'Europe. L'Europe nous le fait savoir, d'ailleurs, suffisamment, elle nous fait assez sentir. Mais il est probable que la Méditerranée est un facteur important pour l'Europe. Voilà, ça, c'est un point qui me paraît fort. Voilà.
Et qu'est-ce que vous retenez de ce que le pape François a dit, écrit, ou des gestes qu'il a posés en Méditerranée, au sujet de la Méditerranée ?
Il avait une vision, qui était une vision géopolitique ou géothéologie politique, je ne sais pas comment il faut le dire. Il a fait un pèlerinage en Méditerranée, carrément. Il a commencé à Lampedusa et il a terminé à Ajaccio. Et il s'est déplacé dans tous les coins de la Méditerranée à cause de ces trois émissions qu'on vient d'avoir, à cause de ces sujets-là. Parce qu'il pensait que la Méditerranée est un laboratoire, que c'est un lieu décisif. Alors, ce n'était pas dénué de sens au point de vue géopolitique, mais lui, il y voyait autre chose. Il y voyait un sens pour l'avènement du monde, pour la suite du monde. Il était dans le prolongement de Paul VI. Paul VI, avant de mourir, il avait dit « il faut inventer une civilisation de l'amour ». Il faut inventer une nouvelle civilisation. Le Concile Vatican II, il intervient parce que la chrétienté est morte. La chrétienté a été tuée et achevée dans la guerre de 14 et la guerre de 39-45.
Qu'est-ce que vous appelez chrétienté ? Parce que c'est un mot qui est parfois utilisé à tort et à travers. Qu'est-ce que c'est la
chrétienté ? J'appelle la chrétienté la forme que l'Église avait prise en Occident depuis le Moyen-Âge. Voilà. Cette Église-là, elle est morte. Elle est morte.
Qui était un des seuls repères dans tous les domaines.
Qui était le socle culturel. Oui. Le socle de la culture européenne en particulier, pas uniquement, mais le socle de la culture européenne. La chrétienté en Europe s'est terminée. Les églises ont été complètement compromises et à la guerre de 14 et à la guerre de 39-45. Donc, derrière, c'est fini.
Je précise, on ne parle pas de christianisme, on parle de chrétienté. Là.
Oui,
c'est pas pareil.
On parle de chrétienté. Hein. Derrière, c'est fini. Voilà. Et donc, il faut refonder. Et le Concile Vatican II, avec le recul de l'histoire, je crois, apparaîtra comme la refondation de l'Église en Europe, de l'Église catholique en Europe au moins. Et c'est merveilleux, il y a des choses merveilleuses dedans, mais évidemment, on traîne les pieds pour le mettre en route. On a eu... Bon, voilà, je ne vais pas dire toutes les limites qu'on a eues, mais peu importe. De toute manière, on fait juste perdre du temps, c'est tout. Il faudra bien. Donc, voilà, François est dans le prolongement de Paul VI, et c'est vraiment le disciple de Paul VI. On comprend François en lisant Paul VI, hein. Et il pensait qu'il y a une civilisation nouvelle à fonder. Il faut que l'Église arrête de s'occuper d'elle-même, quoi. Ça nous fatigue tous, quoi. Hein. Et même elle-même, ça la fatigue. Et qu'elle s'occupe un peu de la vie du monde et des hommes, comme l'a écrit le cardinal Aveline, quoi. Aveline, il est clair là-dessus, quoi. Hein. Le salut, c'est le salut des hommes, c'est pas le salut de l'Église. Donc, il y a vraiment, il faut changer la focale de place. Et donc, il pensait que la Méditerranée avait une place décisive
Dans ce processus,
hein.
Pour conclure ces entretiens, Christian Salençon, on aurait parfois tendance à désespérer, hein, désespérer de l'homme.
Moi, non, mais bon.
Pourquoi ? Pourquoi vous désespérez pas, vous ?
Parce que c'est pas des espoirs que j'ai, c'est une espérance. C'est pas la même chose. Les espoirs, d'abord, ça se décline au pluriel. L'espérance, c'est au singulier. Les espoirs, ils savent ce qu'ils espèrent. C'est pour ça qu'ils sont déçus. L'espérance, elle ne sait pas ce qu'elle espère. Parce que ce qu'elle espère est plus grand que ce qu'elle peut imaginer. Et elle le sait. Voilà. Et l'espérance, elle prend appui dans le fait que, de toute manière, la vie a gagné. Le gage qui nous est donné de ça, c'est la mort et la résurrection du Christ. Alors moi, je crois à la mort et à la résurrection du Christ, et je crois que la vie, elle a gagné. Je crois que tout est accompli. C'est la dernière parole de Jésus. Et parce que je crois ça, j'essaye d'inventer une vie dans l'espérance. Donc j'invente une vie dans l'espérance. S'il y a des ennuis, il y a des ennuis.
Donc il y a des aléas, il y a des tragédies quand même. Hein.
Oui, il y a des tragédies, c'est très compliqué. Mais vous savez, l'auteur de la lettre aux Hébreux, il dit l'espérance, c'est une ancre marine que vous avez jetée dans la résurrection du Christ. C'est une ancre. Une fois que vous êtes ancré, et le bateau, il fait ça, la barque, elle secoue, elle monte, elle descend, elle dérive un peu à droite, à gauche, tout ça, mais elle reste ancrée. Voilà. Eh bien, moi, je me considère plutôt comme ça. De temps en temps, j'ai un peu le mal de mer parce que la barque, elle s'agite un peu, parce qu'elle dérive, mais enfin, l'ancre ne lâche pas, quoi. Voilà. Et donc, je ne suis pas désespéré. De temps en temps, c'est très beau, l'espérance, c'est très beau. Mais si c'est l'espérance qui va se passer ceci, qui va se passer cela, alors forcément, vous êtes déçus. Vous ne savez pas. La vie, elle vient vers nous dans des formes les plus diverses et qu'on ne peut pas imaginer. Espérer, c'est accepter de ne pas voir et de ne pas savoir, parce que, comme dit saint Paul, savoir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. L'espérance, elle est parfois aussi contre toute espérance, c'est-à-dire c'est à l'encontre de ce que vous voyez. Ça aussi, c'est du saint Paul. Mais c'est ça l'espérance, c'est ça la grande espérance chrétienne.
C'est ainsi que s'achève cette série de podcasts « La Méditerranée, une géographie de la rencontre ». Merci à Christian Salençon d'avoir accepté d'y participer. Vous pouvez retrouver la plupart de ses ouvrages aux éditions Nouvelle Cité.